Et c'est l'heure de la revue de presse que vous commencez, Marie-Pierre, aujourd'hui, en chantant.
Eh oui, il suffirait de presque rien, juste quelques années de moins, comme un écho à cette complainte amoureuse au réalisme mélancolique que Serge Reggiani entonnait en d'autres temps, écrit Aimerick Christensen dans son édito de la vie. C'est avec un discours au faux air de chansons de rupture que Sébastien Lecornu, le troisième Premier ministre que la France a connu en une année, a acté cet échec. Il suffirait de peu pour que ça fonctionne. Il suffirait de peu pour que l'on puisse y arriver. Autant de peu, de presque rien, qui font toute la différence. L'émotion, écrit encore notre confrère de la vie, tient à ce cruel écart entre proximité ressentie et limites humaines infranchissables. Il y avait un peu de cela ce lundi 6 octobre sur le perron de Matignon, dans la prise de parole digne et désabusée de Sébastien Lecornu, qui avait sans doute conscience d'incarner une nouvelle étape dans la crise de régime où le pays s'enfonce tragiquement. Allez, un peu d'humour, un sourire esquissé, nous en avons tant besoin. Un peu d'humour donc avec Alain Raimond, qui ce mardi, dans son billet d'humeur de La Croix, revenait sur la démission du Premier ministre, la veille du jour où l'on fêtait Saint-Bruno, patron des exorcistes. Un petit extrait. À l'évidence, il y avait un Bruno de trop. Et le Bruno en trop, pour Bruno Retailleau, c'était Bruno Le Maire. Et hop, Bruno Retailleau, à peine nommé ministre, menace de démissionner, si Bruno Le Maire est lui aussi nommé ministre. Du coup, c'est Sébastien Lecornu qui démissionne. Et la suite savoureuse de cette histoire consternante, je vous laisse la découvrir dans La Croix de ce mardi.
Alors cessons de nous invectiver, Marie-Pierre, et débattons.
L'appel de Maryse Léon, lancé ce week-end dans La Croix Hebdo. La secrétaire générale de la CFDT s'inquiète de la fragilité toujours plus importante de la démocratie sociale et appelle chacun, syndicats, politiques et citoyens, à prendre ses responsabilités malgré un contexte politique chahuté, et c'est le moins que l'on puisse dire. Maintenir un dialogue est essentiel, dit-elle haut et fort à Alban de Montigny et à Marie Lamoureux, nos confrères de La Croix Hebdo. Et d'ajouter, répondant à une autre question, d'autant plus à l'heure où l'on observe une recrudescence des propos racistes, antisémites, homophobes sur les lieux de travail. L'imbrication du politique et du religieux est une malédiction. 2 ans après les attaques du 7 octobre, perpétrées par le Hamas contre Israël, Delphine Horviller prend la parole dans La Croix de ce lundi. Face à la radicalisation des débats, tant du côté palestinien que du côté israélien, la rabbine libérale se dit en quête de mots justes pour préserver notre humanité et faire renaître l'espoir.
Préserver notre humanité et faire renaître l'espoir, le combat de celui qui, le 9 octobre, est entré au Panthéon.
Robert Badinter, qui, comme je le lis dans le Pèlerin de cette semaine, sous la plume de l'historienne Dominique Missica, a pourtant eu le courage de se rendre impopulaire. Si aujourd'hui l'ancien garde des Sceaux rassemble nos compatriotes dans un large consensus, même si ce 9 octobre, sa tombe où il repose au cimetière de Bagneux a été dégradée, il en était cependant tout autrement lorsqu'en 1981, il défendait l'abolition de la peine de mort en France. C'était aussi un avocat d'un immense courage. Il en fallait pour accepter en 1977 de défendre Patrick Henry. Il l'a fait pour combattre la peine de mort, mais aussi parce que derrière l'acte, il regardait l'homme et la part d'humanité qui restait en lui, quoi qu'il ait pu faire. Dans La Croix de ce jeudi, vous lirez ainsi Maître Valentine Guiriato, héritière spirituelle de Robert Badinter, mais aussi Jean-Marc Sauvé et bien d'autres. Tous confient l'admiration qu'ils éprouvent pour l'homme qui a assassiné la guillotine.
Tout de suite, moment de lumière au Proche-Orient, Marie-Pierre.
Et d'espoir, Jonathan, de Tel Aviv jusqu'à Gaza. Dans la nuit de ce mercredi, quelques heures après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, les Israéliens ont laissé éclater leur joie de retrouver rapidement leurs otages. La joie est immense et naturelle, mais le combat ne s'arrêtera pas tant que les derniers otages ne seront pas de retour, rappelle leur famille à Julie Conan, envoyée spéciale de la Croix à Jérusalem. La guerre est finie, espèrent de concert les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Ceux de Jérusalem restent encore prudents sur ces annonces. Enfin, de l'espoir, Sourima, qui travaille dans l'hôtellerie, avant d'ajouter « mesurer ». Inch'Allah, c'est évidemment une super nouvelle, mais attendons que cela se concrétise, avance Mahmoud. Ce vendeur de pâtisserie attend de voir la mise en œuvre concrète de l'accord. Dans la croix de ce jeudi, vous lirez l'histoire d'Avid Abouch. Ce rabbin survivant du massacre croit à un avenir commun entre Israéliens et Palestiniens. 2 ans après le 7 octobre, il est revenu au kibbutz de Nirim. Son credo, je crois. Je crois que les Israéliens et les Palestiniens doivent pouvoir vivre en sécurité et en harmonie. Je crois que si on abîme quelque chose, on peut aussi le réparer. C'est la notion du tikkun olam, un concept profondément enraciné dans la tradition juive.
Et puis enfin, cette semaine, le pape Léon fait les unes de tous nos journaux chrétiens.
Mais qui est vraiment le pape Léon XIV, s'interroge l'hebdomadaire La Vie. Quels seront ses grands chantiers? Quelles seront ses priorités? Même si pour notre consort, Marie-Lucille Kubacki, son pontificat reste une équation à plusieurs inconnues, sa première grande interview, ses premières décisions et son premier voyage fin novembre en Turquie et au Liban donnent une idée de la voie dans laquelle il s'engage. Et puis surtout, son exhortation apostolique d'Ilixité, « Je t'ai aimé » parue ce 9 octobre, donne le ton. Une exhortation dans laquelle il fait de la charité envers les pauvres le critère de vérité du catholicisme. Nous ne sommes pas dans le domaine de la bienfaisance, mais dans celui de la révélation, insiste Léon XIV. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante, écrivait déjà saint Paul. Et la suite, eh bien la suite, vous la connaissez.